Les décodeurs RTBF sur la première.
Retour à présent sur l'affaire du mort de Tolbiac, on va l'appeler comme ça. Nous sommes en France, vendredi passé, vous le savez, un mouvement d'occupation des universités est en cours, mouvement de lutte contre la réforme d'entrée à l'université. Des étudiants occupent notamment la faculté de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris depuis 3 semaines. Vendredi donc, descente des CRS, ils évacuent les lieux. La police parle d'une évacuation dans le calme, mais plusieurs vidéos et témoignages sur les réseaux sociaux font état de violences diverses.
C'était très violent. C'était vraiment très violent. On a été frappé plusieurs fois sans sommation. On a été matraqué plusieurs fois sans sommation. On a été nassé sur le balcon d'un amphithéâtre. Et là, on était matraqué pour nous forcer à descendre. Encore une fois, on était pacifistes et ça, on l'a répété.
Alors, dans la foulée, une info commence à circuler. Il y aurait eu un étudiant tué lors de cette intervention policière. Un mort manifestement dissimulé aux yeux du public, dont le sang aurait été nettoyé rapidement en douce. Et là, c'est parti, la machine de la rumeur s'emballe. Plusieurs médias reprennent l'info, enquêtent. C'est le cas de Reporter, de la web télé Le Média, de Libération, de Marianne, entre autres. Jusqu'au démenti, en début de semaine, tout cela est retombé comme un soufflé. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de Reporter, site d'information français. Donc vous êtes l'un des médias qui a suivi de près l'évacuation de Tolbiac et cette affaire de l'étudiant tué. Nous recevons également en studio Aurore van de Winkel. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes doctorante à l'UCL, vous travaillez sur les rumeurs et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui conseillère en gestion des rumeurs. Alors Hervé Kempf, reprenons un instant le fil de l'affaire. Comment cette information selon laquelle il y aurait eu un mort, comment est-ce qu'elle arrive aux oreilles de votre journaliste sur place ?
Eh bien, c'est effectivement dans un contexte de grande violence, enfin de brutalité, d'agitation, de stress des centaines d'étudiants qui sont le matin du vendredi 21 avril regroupés devant la fac de Tolbiac qui vient d'être évacuée par la police. Et il y a effectivement ces bruits qui commencent à circuler et notre journaliste qui connaît le terrain parce qu'il y a été plusieurs fois depuis le début de cette occupation qui a commencé fin mars, recueille des témoignages de différents étudiants ou occupants qui disent qu'ils ont subi des violences, des gazages, des coups de matraque, etc. Et puis le témoignage d'un occupant qui se fait appeler Désiré, qui décrit de manière extrêmement précise la façon dont un étudiant ou un occupant a été blessé très gravement en fuyant par l'arrière de l'université. Donc on publie, nous, de notre côté, vers 15h, ce témoignage. Nous, on ne parle pas de mort, c'est important hein, à signaler, on ne parle pas de mort et pas de coma, parce que notre témoin n'en parle pas. Il évoque simplement l'idée d'un blessé qui saigne énormément et qui a chuté très durement. Mais effectivement, pendant ce temps-là, le buzz est parti. Il y a un tweet qui est parti à 12h52 qui cite l'hypothèse d'un étudiant mort. Les différents médias que vous avez cités reprennent plus ou moins cette hypothèse en citant tel ou tel étudiant, mais qui ne se déclare pas forcément avoir été témoin de l'acte en question. Et très rapidement, le buzz part sur les réseaux sociaux. Il y a nos collègues du Parisien ont recensé 9913 tweets dans l'après-midi. Ça prend une dimension tout à fait extraordinaire.
Et vous, qu'est-ce que vous publiez exactement à ce moment-là ?
Nous, ce qu'on publie exactement vers à 15h, à 15h07, c'est en titrant un étudiant a été grièvement blessé par une intervention très violente de la police. Et là, il aurait fallu mettre un conditionnel ou mettre selon un témoin. Mais après, on publie les différents témoignages de ces étudiants qui disent qu'ils ont subi la violence et le témoignage du dénommé Désiré. Et puis, on actualise au fur et à mesure, parce que l'affaire, on sent bien, prend une dimension tout à fait importante. On actualise au fur et à mesure. On signale tout de suite qu'il y a un démenti, parce que le matin, la préfecture de police avait dit tout, c'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. À 13h30, à peu près, elle publie un petit tweet en disant il n'y a eu aucun blessé lors de l'opération d'évacuation de ce matin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on publie ces différents démentis. Pour l'instant, il y a seulement ce tweet de la préfecture de police. Et puis, d'une part, notre journaliste retourne sur place. Moi, je lui dis, écoute, il faut absolument vérifier ça, réinterroge les témoins, réinterroge le témoin, etc. Il recueille deux autres témoignages. Et par ailleurs, le premier témoin, lui, écrit même un texte qui est avec pas mal de fautes d'orthographe, mais qui est assez clair dans sa description, et affirme qu'il veut déposer son témoignage devant un avocat. Et par ailleurs, en parallèle, on est deux journalistes et on enquête sur les réseaux sociaux, des gens nous appellent, on essaie de vérifier ce qui se passe dans cette ambiance de très grande agitation et excitation. Et voilà, on est en fin de journée, en ayant publié différents démentis, par exemple sur l'hypothèse qu'un l'étudiant supposé blessé aurait été à l'hôpital Cochin. En fait, le syndicat Sud Santé vérifié dit non, il n'y a pas d'étudiant à l'hôpital Cochin. Donc on est en fin de journée dans une très grande incertitude, avec quand même trois témoins qui concourent, convergent dans le même sens, et le principal témoin qui dit « Demain, samedi après-midi, je vais aller voir un avocat pour faire une déposition, et dans l'hypothèse qu'il y aurait une procédure juridique qui serait lancée avec un comité d'étudiants.
Mmh. » Alors, Aurore van de Winkel, ce que vous entendez ici, c'est le terreau fertile idéal pour le départ d'une rumeur ?
Ah oui, tout à fait, hein, puisqu'on est dans une situation extrêmement, émotionnellement très forte, en fait, et assez ambigu, sur laquelle on n'a pas toutes les informations nécessaires, on est un petit peu dans la panique. Et apparemment, je pense que Reporter a dit dans son dernier article qu'il y a quand même, ou qu'il y aurait quand même eu une chute d'un étudiant, mais qui n'aurait pas du tout été blessé, qui serait parti et qui aurait été soigné par ailleurs. Et donc, il a suffi de ce petit catalyseur-là, dans une ambiance où il y a eu quand même des répressions un petit peu musclées de la part de la police pour l'évacuation de d'autres facs ces dernières semaines. Et puis, on est aussi quelque part dans un contexte d'anniversaire de mai 68 où, qui nous rappelle aussi la répression policière de l'époque. Et donc tout ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir faire naître une rumeur de ce type-là.
Mmh. Alors la police, on l'a dit, sort un communiqué, la préfecture aussi, l'université également, et rien n'y fait, hein, la machine continue à s'emballer. Est-ce que c'est parce que dans cette histoire, l'autorité que représente la police, l'État, c'est justement l'ennemi, entre guillemets ?
Exactement, exactement. Croire la police alors qu'on sait qu'il y a eu des évacuations musclées dans d'autres facs, ça voudrait dire qu'on ne croit pas les autres personnes qui luttent avec nous pour pouvoir rétablir des droits ou pouvoir défendre notre propre vision du monde. Donc on est dans une lutte de croyance, évidemment. Et on a parlé un petit peu de cette idée de complot, puisqu'il y avait ces nettoyages des flaques de sang et tout ça. Donc on a les gens de ce site ont pu avoir l'impression que toutes les autorités se sont mis ensemble, donc les autorités de la ville, des soins de santé, de la police et tout ça, se sont mis ensemble pour pouvoir cacher un acte grave qui remettrait en question et ferait en tout cas basculer l'opinion dans le sens ou en tout cas dans le côté des étudiants.
Donc, et j'imagine aussi que les réseaux sociaux, hein, la rapidité de diffusion des informations, ça a aussi fait évoluer les rumeurs aujourd'hui.
Bien sûr, puisque effectivement, on va rester un petit peu dans notre groupe d'appartenance et dans les réseaux sociaux, on va suivre les gens qui ont un petit peu les mêmes opinions que nous, vous l'avez bien dit au cours de l'émission. Et donc effectivement, on va voir des tas de gens en qui on a confiance, que l'on côtoie régulièrement, qui vont diffuser ce type d'informations. Il y avait aussi le témoignage de Leïla, cette étudiante qui a été diffusée par vidéo, et on sait très bien
dans
que...
Par le média, notamment la web TV.
Par le média, voilà. Et on sait très bien qu'au niveau des algorithmes des réseaux sociaux, tout ce qui est média, tout ce qui est image, est davantage privilégié que les informations texte.
Hervé Kempf, lorsque l'info semble se révéler fausse, vous décidez de publier sur votre site un article très complet, hein, qui explique comment vous en êtes arrivé là. C'est une décision qui a été prise en rédaction, ça, pour rétablir en quelque sorte votre légitimité dans cette affaire et dire au public, bon ben voilà, voilà ce qui est arrivé, vous pouvez continuer à nous faire confiance.
Notre légitimité, on estime qu'elle était assurée tout au long, puisque aussi bien vendredi que samedi, on a publié, parce qu'on faisait les vérifications, hein, on travaillait vraiment dur pour éclaircir cette affaire, et donc on publiait au fur et à mesure les différentes démentis qui pouvaient arriver. Par exemple, il y a un tweet de la préfecture qui est à 13h30, mais il est très succinct. Le communiqué de la préfecture ne va tomber que vendredi en fin d'après-midi, vers 19h. L'assistance publique ne va démentir que le samedi midi, et nous, bien sûr, on le publie tout de suite. La mairie de Paris, sur la question des agents de nettoyage, j'appelle moi-même le maire adjoint de la mairie de Paris qui me dit non, il n'y a pas eu d'agents de nettoyage, de flaques de sang, on le publie tout de suite. Vous voyez, les démentis n'interviennent pas tout de suite, ils se déroulent au fur et à mesure de la journée de samedi. Donc on publie ça, et nous, ce qui nous fait basculer pendant le week-end, c'est d'une part que le témoin ne va pas chez l'avocat, il fait faux bond à l'avocat, on n'arrive pas à retrouver les témoins, on continue à enquêter, et donc toute la journée encore dimanche matin et de lundi, on vérifie toutes les pistes possibles et on se rend compte que l'affaire est de moins en moins crédible. Et donc, effectivement, on décide d'expliquer à nos lectrices et à nos lecteurs comment on a travaillé, comment s'est déroulée l'enquête et comment on arrive à la conclusion qu'effectivement les témoignages étaient fallacieux. Avec cette toute petite nuance que vous avez signalée, c'est que il y a une possibilité encore qu'il y ait réellement eu quelque chose et que cette personne se soit blessée, mais blessée légèrement. Et pour le savoir, on demande à la préfecture de police, qui a installé une caméra de vidéosurveillance, de rendre public ce qu'elle a vu, puisque cette caméra était située juste en face de l'endroit où l'éventuel accident aurait eu lieu. Et ça n'est pas possible, parce que la préfecture de police dit à nos collègues du Parisien, il faudrait qu'il y ait une démarche juridique qui soit faite. Or, la démarche juridique ne peut être faite que s'il y a un collectif d'étudiants ou je ne sais qui enclenche cette procédure. Donc, on est un petit peu dans cette impasse. Mais ce qui est clair, c'est qu'il fallait raconter l'enquête. Il fallait bien expliquer comment on avait travaillé et comment, finalement, l'affaire, finalement, n'en était pas une. Mais c'était absolument essentiel de vérifier plutôt que de dire « Ah ben, la préfecture de police a dit quelque chose à 13h30, donc tout s'arrête. » On a malheureusement, comme l'a rappelé votre... Pardonnez-moi. On est effectivement dans un contexte de très grande violence, de rappel de mai 68. On est aussi à Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France. Il y a aussi une opération militaire qui est très dure,
l'évacuation de la ZAD.
Qui se déroule. Et par ailleurs, il est déjà arrivé que les autorités mentent ou cachent la réalité. Nous, on a eu l'expérience deux fois à Reporter. C'est d'une part l'affaire très grave de Sivens fin 2014, où nous avions révélé que Rémi Fraisse avait été tué par la grenade d'un gendarme, et au début, les autorités essayaient de couvrir cette information. Et dans un contexte beaucoup plus léger, heureusement, on avait constaté que la Direction générale de l'aviation civile avait vraiment fait des erreurs énormes dans un rapport sur un aéroport. Donc, il était légitime, et je crois de toute façon, il est toujours légitime d'interroger l'autorité. Il ne faut pas la remettre en cause par principe, ça n'est pas notre propos, et nous avons interrogé la préfecture de police, la mairie, l'assistance publique. Il ne faut pas la remettre en cause par principe, mais il est tout à fait légitime, quand il y a un doute fondé qui existe, eh bien, de vérifier
d'enquêter en tout cas de ce côté-là. Aurore Van de Winkel, est-ce que c'était la bonne attitude pour un média, pour en tout cas rétablir sa légitimité, de faire comme Reporter a fait, à savoir remettre à jour régulièrement la suite de l'enquête, expliquer exactement ce qui s'est passé? Vous auriez conseillé cela à Reporter pour rétablir la crédibilité?
Oui, c'est très très important de prendre ses responsabilités quand on se rend compte qu'on a été un petit peu loin dans ses déclarations, et effectivement l'utilisation du conditionnel aurait été très très intéressante avant de devoir rentrer dans cette machine où on doit revenir un petit peu en arrière, parce qu'on se rend compte que finalement nos témoignages ne sont pas si solides que ça. Donc c'est vraiment très important pour retrouver la confiance du public, effectivement, parce que ce serait quand même dommage que une fausse information comme ça puisse faire basculer une opinion dans l'autre sens, on va dire, et peut-être cacher une situation problématique qui, elle, est vraiment réelle, qui est le fait qu'il y a effectivement des répression assez dure par rapport à tout ce qui se passe dans les campus en France.
Écoutez ceci, si vous le voulez bien.
Il est décisif que les témoins des événements puissent parler avec leur façon de faire, avec leur émotion, avec parfois leurs inexactitudes, qu'on soulignera.
Alors cet homme, c'est Gérard Miller, un cofondateur de la web télé Le Média. Il contourne ici, en fait, sans vraiment reconnaître l'erreur. Donc il revient sur cette affaire de Tolbiac. Le Média publiera un communiqué plus clair par la suite qui présente ses excuses au public. Mais en attendant, sur cette attitude, Aurore Van de Winkel, cette attitude un peu entre deux, on va dire, on l'entend, et dit il faut laisser les gens s'exprimer avec leur propre sensibilité. Du coup, ça entretient un peu le flou. C'est pas une très bonne idée, ça, non?
Disons qu'il joue un petit peu sur le côté psychologie. Et effectivement, on se rend compte qu'au niveau de la mémoire, même quand on est témoin d'un événement, c'est pas parce qu'on est témoin visuel d'un événement qu'on va bien savoir pouvoir le raconter, qu'on va se souvenir de tout ce qui s'est passé, qu'on va pas avoir des troubles liés simplement au trauma que l'événement peut occasionner. Donc, on prend un petit parti pris comme ça pour expliquer que la psychologie des témoins a pu jouer joué un rôle dans la diffusion de cette fausse information, mais le problème, c'est que les journalistes sont censés prendre acte de ce type de phénomène et continuer leur enquête pour être les plus objectifs possibles en croisant leurs sources. Mmh. Donc, ils ne peuvent pas se dédouaner par rapport à ça. À la rigueur, les témoins comme l'étudiante qui a notamment été citée, elle peut utiliser cet argument-là, par exemple, mais le média, lui, quand même, c'est un petit peu délicat.
Mmh. Hervé Kempf, Libération a titré que votre site reporter rétro-pédalait sur cette affaire. On vous a pointé, entre guillemets, comme les instigateurs de la rumeur. Comment est-ce que vous avez vécu ça en rédaction? Comment vous sentez aujourd'hui?
Comment on l'a vécu? Toute l'enquête, d'abord, on se posait pas de questions. On enquêtait pour établir autant que possible la vérité. Ensuite, quant à cet article de Libération, moi, j'avais discuté avec cette journaliste très ouvertement de l'enquête qu'on faisait, etc. Et on va dire que dans l'après-midi ou la soirée de mardi, je lui ai dit qu'on allait publier le lendemain matin un récit détaillé. Elle a affirmé, ce que j'ai pas trouvé très élégant, qu'on rétro-pédalait en n'attendant pas qu'on le publie, mais ça c'est, on va dire, un détail. Moi, je me sens à la fois, personnellement, j'aurais dû, je l'ai dit et je le redis, j'aurais dû mettre un conditionnel dans le titre. Pour le reste, on assume tout ce qu'on a fait parce que, une fois de plus, on poursuivait l'enquête et qu'au cours de l'enquête, on mettait les différents démentis, etc. Donc voilà ce que je peux dire. Ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est le retour, on va dire, d'un ensemble de médias dominants. Et j'ai découvert aussi à cette occasion la violence des réactions sur Twitter de personnes qui, on va dire, sont dans des courants politiques de droite ou d'extrême droite, qui réagissent extrêmement violemment sur des apparences, sans creuser l'affaire, sans lire vraiment les papiers, sans comprendre le point de vue qu'on a. J'ai été très surpris. Ce moment de violence verbale et d'une espèce de délire collectif dans lesquels on essaye de maintenir un cap du journalisme, même si on ne le fait pas toujours parfaitement, j'en conviens, mais dans ce trouble, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les hypothèses possibles? Essayons de les éclaircir.
Merci en tout cas d'avoir partagé cela avec nous. Hervé Kempf, rédacteur en chef du journal en ligne Reporter. Il y avait également Aurore Van de Winkel, conseillère en gestion des rumeurs.
Merci.
Les décodeurs RTBF sur la première.